Des clés pour vivre avec Nathalie Cardon.
C'est un deuxième entretien avec vous, Guénaëlle Fauillard. Et bonjour.
Bonjour Nathalie.
Alors merci d'avoir dit oui pour cette série des clés pour vivre. Je rappelle que vous êtes fondatrice d'un beau mouvement qui a vu le jour en 2017 avec un premier grand rassemblement de près de 300-350 femmes à la Sainte-Baume. C'est ce mouvement de filles, de rois. Et c'est un livre aussi qui est paru récemment aux éditions Artege avec ce sous-titre « Femmes, comment faire fructifier les dons que Dieu vous a fait. » Donc c'est vraiment un appel aussi à la femme, à être à l'écoute hein, et puis à savoir peut-être discerner le bon moment pour donner ce oui et peut-être se révéler aussi dans ses talents pour la mission. Alors dans cet ouvrage, page 75, une citation que vous avez choisie et vous nous direz pourquoi, c'est une citation de Sainte Mère Teresa de Calcutta, donc page 75. « Les gens qui meurent sans jamais accomplir leur plein potentiel privent égoïstement le monde de leurs talents cachés ou inexploités. » Voilà. Donc on est dans cette citation de Mère Teresa, on est aussi dans ce chapitre où vous invitez au fond toutes les femmes à se révéler. Femme, révèle-toi. Donc se révéler dans sa vocation bien spécifique.
Oui. C'est ça.
Alors, un peu plus d'informations.
Oui, oui, c'est ça. Pourquoi Mère Teresa? Parce que Mère Teresa, bon, elle est connue dans le monde entier et elle est connue comme une femme missionnaire, comme une femme qui a donné sa vie pour le Christ aussi, hein, qui a donné sa vie pour Jésus, pour les plus pauvres. Et en même temps, elle dit cette phrase assez extraordinaire que si on ne développe pas ses talents, parfois on en parle peut-être pas suffisamment dans l'Église, je dirais sur les talents. Pourtant, c'est quand même la parabole des talents aussi. Et là, c'est Mère Teresa qui nous donne cette clé de compréhension. Elle nous dit, mais si vous ne vous révélez pas avec vos talents, vous privez égoïstement le monde. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le Seigneur attend de nous qu'on soit debout et qu'on œuvre réellement dans le monde. Pourquoi il nous demande ça? Mais parce qu'en fait, à la base, vous voyez, j'en reviens à Adam et Ève, hein, on passe. Il demande à Adam et Ève, finalement, de gérer ce monde créé, roi et reine de la création, finalement. Hein. Il le demande à Adam et Ève, c'est-à-dire à l'homme et à la femme, donc à la femme aussi. Donc ça veut dire qu'on a aussi à s'accomplir ici-bas sur la terre. Voilà. Et pourquoi est-ce que j'aborde tous ces thèmes-là dans ce livre? C'est que j'avais rencontré une amie, j'étais en lien avec une amie protestante il y a quelques années, et qui m'avait parlé de cette montagne d'influence. Qui m'avait dit, tu vois Guénaëlle, moi je médite beaucoup là-dessus, sur ces sept montagnes d'influence. Et ça m'avait percutée. Et en fait, j'ai prié pour ça dans l'oraison. J'ai dit, Seigneur, mais c'est quoi ces montagnes d'influence? Et finalement, c'est ça qui m'a été donné. C'est comment la femme aussi, elle va s'engager dans ces sept montagnes d'influence que je vous redonne, hein, c'est-à-dire engagée dans l'Église, engagée dans la famille et l'éducation, engagée dans la santé et le milieu social, engagée en politique, dans le gouvernement ou la justice, engagée dans les médias, comme vous, Nathalie, engagée dans l'art et la culture, et enfin engagée dans tout ce qui est business, finance ou innovation. Et vous voyez, pendant les congrès filles de roi, le deuxième jour, donc le premier, je vous avais dit, c'était « Femme, relève-toi avec Marie-Madeleine ». Là, c'est « Femme, révèle-toi ». Et comment on appelle ça? Pendant la veillée le soir, c'est extraordinaire parce qu'en fait, on demande à toutes les femmes, je ne sais pas si vous imaginez, hein, 350 femmes, et on fait une espèce de un grand espace devant, comme un peu une piscine, la piscine de Bethsaida, vous voyez? Et là, on va prendre chaque montagne d'influence en disant, voilà, toutes les femmes qui se sentent appelées à œuvrer au sein de l'Église, elles peuvent s'avancer. Et toutes ces femmes s'avancent, et toutes les intervenantes, et tout le monde prie pour ces femmes, pour qu'elles reçoivent la bénédiction du Seigneur dans ce domaine-là. Et à chaque montagne d'influence, on demande aux femmes de s'avancer. Et c'est extraordinaire. On met des voiles autour des femmes, et on leur met une couronne. On leur met aussi un manteau, comme pour vraiment pour que le Seigneur les enveloppe d'une vraie bénédiction. Et c'est extraordinaire ce qui se passe.
Alors bénédiction et protection, voilà. En vue de la mission.
Exactement. bénédiction et protection en vue de la mission. Et c'est des temps très forts, très forts.
Ça fait grandir.
Ouais. Ça fait grandir, ça fait... C'est-à-dire qu'il y a un sens à notre vie quand même aussi, hein, dans notre engagement. Il y a un sens. Et on reçoit vraiment... C'est très important d'apprendre à se connaître aussi. Ça, j'en parle aussi pas mal dans mon livre. Apprendre à se connaître. Parce que si on ne se connaît pas, si on ne s'aime pas soi-même, comment est-ce qu'on peut aimer les autres et...
Donc apprendre à se connaître, apprendre la réconciliation aussi.
Oui, tout à fait.
Donc là, vous abordez aussi, vous abordez beaucoup de domaines dans cet ouvrage que je conseille. C'est un lieu aussi de réconciliation envers soi-même, oui. D'abord, oui. En vue de répondre
à cet appel.
Oui. En fait, vous renvoyez, pour ceux et celles qui ne connaissent pas le mouvement Filles de Roi, vous renvoyez chacun et chacune aussi à ce chemin au fond de conversion.
Oui.
Conversion-guérison en vue de la mission. On
Exactement.
Ne peut missionner si le cœur n'est pas guéri et consolé.
Tout à fait. C'est tout à fait ça. C'est-à-dire, d'abord, donc on en revient à cette première veillée où on est guéri, consolé, où on apprend à s'aimer tel que nous sommes.
Donc une démarche d'humilité intérieure.
Oui, tout à fait. Tout à fait. Démarche d'humilité. C'est tout ce cheminement de conversion, hein, dont on a besoin, dont on a besoin chaque jour et dont on aura besoin jusqu'à la fin de nos jours. C'est-à-dire qu'on peut avoir des grands moments de conversion. Mais on a à se convertir chaque jour et on chute et on se...
Alors au fond, c'est quoi une femme qui se relève et qui devient missionnaire, hein, après 5 ans d'expérience de ce mouvement Fille de Roi? Quels sont les fruits dont vous êtes témoin, les témoignages que vous avez
peut-être aussi
reçus en tant que fondatrice de ce beau mouvement?
Ah oui, on a reçu de nombreux témoignages de femmes qui avaient été guéries et consolées dans leur féminité aussi. Parce que, alors c'est très intéressant, on demande aux femmes le samedi soir de venir habillées comme des, c'est peut-être un grand mot, princesse, mais habillées bien, c'est-à-dire venir et habillées en filles de roi. C'est-à-dire habillées avec cette conscience qu'on est des femmes et qu'il y a cette féminité en nous. Et c'est très important.
Donc la beauté de la féminité.
La beauté de la femme. C'est une beauté assez... Alors pas... On parle pas forcément de beauté extérieure. Il y a la beauté extérieure et la beauté intérieure. Mais c'est prendre soin de soi parce que on est fille de roi. Et donc, c'est très intéressant parce qu'il y a eu des guérisons de femmes à ce niveau-là sur leur féminité.
Donc, sur la féminité.
Oui.
Donc, sur l'identité.
Sur l'identité, exactement. Et sur l'identité en tant que femme, sur cette vocation en tant que femme. Parce que, je ne sais pas si vous avez lu Cœur de femme aussi, hein, de John et Susan Elwedge, ils parlent de Cœur de femme, ce sont des protestants aux États-Unis, mais c'est très beau comme livre aussi. Et ils parlent de ce cœur de femme et que finalement, le cœur de la femme, c'est aussi une recherche de cette beauté à dévoiler. Donc cette beauté à dévoiler dans le sens qui je suis devant le Seigneur et qui je suis devant moi et devant le monde. Qu'est-ce que j'ai à révéler au monde, en fait?
Alors, quelles sont un peu les embûches? Qu'est-ce qu'il peut freiner avec aussi, je dirais, l'expérience que vous avez dans votre...
Oui.
Cette mission qui vous est confiée, une lettre de mission aussi, puisque je rappelle que vous faites partie du diocèse de Fréjus-Toulon avec un évêque bien connu, Monseigneur Dominique Ray. Qu'est-ce qui fait qu'une femme, est appelée aussi à se relever, à devenir missionnaire?
Oui. Alors, vous parliez très justement, en fait, je vais revenir justement au péché de la femme. C'est-à-dire que pourquoi est-ce qu'une femme aujourd'hui, pourquoi on a du mal à être missionnaire, à rayonner, alors que c'est notre appel, hein, à rayonner, à être, on est le chef-d'œuvre de cette création, c'est Pie XII, hein, qui en parle. Pourquoi est-ce que la femme a autant de mal à trouver sa place et à rayonner? En fait, le problème, c'est que justement, si la femme veut briller pour elle-même, si elle veut accaparer les choses sur elle-même, elle perd tout. Comme Lucifer, comme Satan. Hein, Lucifer, le plus beau des anges, ça rejoint vraiment le péché de la femme. Parce que quand on veut briller pour soi, eh bien, on perd sur tous les niveaux. Voilà. Et on devient...
Stérile.
Stérile. On porte plus rien. Le porteur de la lumière, Lucifer, est devenu Satan.
Alors c'est peut-être, permettez-moi, c'est peut-être la grande tentation aujourd'hui chez la femme.
Oui.
Que de vouloir briller, hein, pour elle-même et ne pas laisser la bonne lumière briller à sa place.
Ah oui, mais c'est un des des péchés de la femme. Et quand elle se regarde elle-même...
Et grand péché.
Et grand péché.
Donc elle peut facilement, finalement, devenir toxique.
Et oui,
manipulatrice, j'irais jusqu'à dire. Et un vrai danger, au fond. Hein.
Mais peut être... Alors, évidemment, heureusement, les femmes ne sont pas toutes un danger, même quand elles ne sont pas sous la grâce de Dieu. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est vrai que ça peut être une tendance, si vous voulez, ça peut être une tendance...
Et une grande tentation, peut-être.
Et une grande tentation. Voilà, une grande tentation d'oublier qu'on est canal de la grâce. Hein. C'est Catherine de Sienne, n'est-ce pas?
Oui, tout à fait. On en a parlé tout à l'heure. On a parlé de Catherine de Sienne et de Sainte-Thérèse d'Avila.
Et de Thérèse d'Avila, tout à fait. Donc c'est vrai que si on ne devient pas ce canal de la grâce, parce qu'il ne faut pas oublier qu'on reçoit tout de Dieu, et tout, c'est lui qui nous donne tout, nous qu'est-ce qu'on est? On est des instruments, enfin on est des, je ne sais pas comment vous dire, on est des serviteurs inutiles et en même temps on est fils et filles de roi. C'est ça qui est assez extraordinaire. Il nous aime tellement qu'en fait c'est bien plus que des serviteurs ou servantes et en même temps cette grâce du service aussi toujours. Enfin ça c'est...
Cet entretien, ça passe trop vite. Moi, j'invite vraiment ceux et celles qui vous écoutent cette semaine dans cette série à découvrir. Donc, il y a un site qui présente bien ce mouvement de femmes, filles de rois. Et puis, il y a ce livre parsemé aussi de différents portraits de femmes que vous avez rencontrées et qui nous invite, nous, femmes, à se mettre en route, debout. Mais avant d'être debout, à se mettre à genoux devant la cour. Comme vous l'avez rappelé hier lors de cet entretien, eh bien, on ne se lasse pas de vous écouter. Je vous propose de vous retrouver demain à la même heure, Guénel Follard, avec ce livre que l'on peut se procurer aux éditions Artege, Filles de Roi. À demain et merci.
Nathalie.